Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit, émission réalisée en partenariat avec l'école de guerre Terre. Depuis le mois de novembre, nous réalisons une série d'émissions pour vous présenter à la fois le fonctionnement de l'école de guerre Terre, mais également le fonctionnement des armées, le fonctionnement de l'armée de Terre, vous faire entrer dans la manière dont les armées fonctionnent, dont elles sont formées et dont elles sont également en opération. Et cette semaine, pour cette émission, nous allons aborder un sujet qui est fondamental pour les armées, à savoir la prise de décision, la manière dont une décision est réalisée, la façon dont une décision ensuite est ordonnée, dont elle est mise en application au sein des armées. C'est ce que on appelle, puisqu'il y a beaucoup de sigles dans l'armée, donc le sigle de MEDOT, méthode d'élaboration d'une décision opérationnelle tactique. Nous allons donc voir de quoi il s'agit, comment elle fonctionne, avec mes deux invités, le colonel Rémy et le chef de bataillon Joran. Bonjour, merci d'être venus tous les deux au micro de Conflit pour nous présenter donc cette méthode. Alors avant d'entrer dans la façon dont elle est organisée, dans la prise de décision, de quoi il s'agit exactement? J'ai développé le sigle, donc on voit un petit peu. On parle de méthode de décision, de tactique, mais de quoi il s'agit exactement et en quoi c'est important pour l'armée de terre?
Bien, bonjour, bonjour monsieur, merci beaucoup de votre accueil. Alors, de quoi s'agit-il? D'ailleurs, c'est la question fondamentale de cette méthode. Il s'agit tout simplement de l'outil principal pour un chef pour prendre une décision dans un temps, je dirais, cohérent avec la mission qui lui est confiée. Il s'agit, comme vous l'avez dit, clairement de prise de décision tactique. Alors, toute prise de décision militaire a des effets sur le terrain, donc elle est tactique. Mais là, on précise le terme de tactique pour préciser le niveau d'emploi des unités pour le distinguer de l'échelle stratégique, bien évidemment, qui nous relie aux décideurs politico-militaires, enfin politiques et politico-militaires, et du niveau opératif, qui concerne l'étendue totale d'une campagne, d'un théâtre d'opération avec toutes ses composantes, terrestre, aérienne, maritime. Là, il s'agit bien d'une méthode de l'armée de terre, d'une méthode de prise de décision, dans l'urgence ou non, et qui répond, je dirais, à la nature même du fait guerrier. Voilà. Vous savez qu'il y a un débat presque aussi vieux que la guerre sur la guerre est-elle un art ou une science? Eh bien, je dirais que la méthode et toutes les méthodes de raisonnement tactique qui l'ont précédée, car elle n'est évidemment pas récente, petite mise en perspective historique, la première méthode, je dirais, documentée, archivée, date de 1614. C'est celle du chevalier de Pressac, dont les questions fondamentales sont, à s'y méprendre, celles que nous nous posons aujourd'hui. De quoi s'agit-il? Pourquoi menons-nous telle mission? Comment allons-nous la mener? Contre qui? Avec qui? Sur quel terrain? Des questions qui semblent, somme toute, très logiques pour traiter d'un sujet militaire, mais qui ont le bénéfice d'être ordonnés, d'être cadencés dans un processus connu de tous. Et c'est l'objet de cette méthode. Cette méthode n'est absolument pas un carcan. Ça, c'est important aussi.
On va y revenir justement sur la méthode et puis la souplesse ou la question de l'opérativité après.
Tout à fait. Mmh. Ouais. Et donc, je vous disais, c'est une méthode de l'armée de terre, non pas qu'elle soit exclusive des autres armées, cette méthode, pas du tout, mais elle répond à la spécificité de l'armée de terre qui, par rapport aux autres armées qui évoluent dans d'autres milieux, hein, le milieu maritime, le milieu aérien, ont des contraintes différentes. et ont un embarquement physique, je dirais, de leurs membres, des aviateurs, des marins, qui fait que il y a une forme de contrainte naturelle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une décision a été prise sur mer ou dans les airs, elle va être appliquée immédiatement. Quand le commandant d'un navire dit barre à tribord 20, même si dans la chaîne hiérarchique certains auraient estimé qu'il valait mieux faire barre à tribord 10, ça va pas changer tout de suite et il ne va pas y avoir de grosses difficultés à ce que le bâtiment aille dans la direction indiquée par le pacha. En revanche, dans l'armée de terre, il y a une complexité de la manœuvre qui fait que l'armée de terre est, notre chef d'état-major dit souvent, l'armée de terre est quantique. C'est-à-dire que, en moyenne, une unité de l'armée de terre est là où elle doit être. Le poids moyen de l'unité est là où elle doit être. Mais c'est tellement diffus, c'est tellement vaste, que c'est un corps assez fluide. Donc, on a besoin d'une méthode qui fasse plus barrage à l'incertitude et qui permette au chef de décider encore plus dans l'incertitude que dans un commandement de type d'opération maritime ou opération aérienne. Et cette méthode, il répond assez bien par son côté procédurier. Donc là, on est plutôt dans l'objet science de la guerre, mais également par son côté place du chef, et ça, on pourra y revenir si vous le souhaitez, qui répond plutôt au côté art de la guerre, car autant la méthode permet d'être procédurier, de ne rien oublier, donc côté science, autant la place du chef, par son intuition, qui repose sur son expérience, qui repose sur sa culture d'officier, répond au côté art de la guerre, et je pense que nous avons là une méthode qui fait bien la fusion, le mariage de l'art de la guerre et de la science de la guerre.
Alors si je me place côté grand public, de ce qu'on voit des informations, quand il y a l'opération Sentinelle, quand il y a déploiement des armées au Mali ou ailleurs, au Liban, en Afghanistan en son temps, toutes ces opérations se font dans le cadre de cette méthode, voilà, quel que soit le lieu d'opération et la manière dont les armées se déploient.
Votre invitation, pour répondre à cette question, effectivement, quelle que soit la nature de la mission, donc quand vous parlez de l'Afghanistan ou de la mission Sentinelle, et quel que soit le niveau, que vous soyez un général de division, commandant aux 27 000 hommes, un général de brigade, commandant aux 8 000 hommes, un colonel au sein de votre régiment, commandant 1 000 hommes, ou un capitaine commandant votre compagnie, 150 hommes à peu près, ou un chef de section, vous réalisez à votre niveau une médote. On réalise souvent cette médote sur un temps compté, souvent le premier temps de la guerre. Par exemple, une division peut raisonner sur 2 semaines, ou plus bien évidemment, ou moins. Un régiment va raisonner sur la première phase de la guerre ou de sa mission. Donc ça peut être par exemple les quatre premiers jours. Ainsi, on décline à chaque niveau tactique sa mission, et on arrive du coup, un général de division va raisonner grands espaces, alors qu'un chef de section lui va raisonner sur un petit compartiment de terrain, souvent celui à vue du terrain, et c'est bien lui qui est le chef tactique et qui réalise l'effet de son chef sur le terrain.
Si on reste justement sur ces grades et leur rôle, et puis le nombre d'hommes que ça représente, général de division, général de brigade, par exemple, c'est combien d'hommes à peu près qui sont sous leur commandement? Et ensuite, quand on descend vers le capitaine, lieutenant, quel est le rôle de chacun dans la prise de décision, et quel est le nombre d'hommes qui sont sous leur commandement, leur direction?
Bien, je partirai, si vous me permettez, plutôt du bas vers le haut. On a coutume de dire que c'est l'avant qui commande, hein, pour reprendre les propos célèbres du général de Montsabert. Le premier niveau qui applique cette méthode, c'est le niveau de la section ou du peloton. Alors une section ou un peloton, c'est environ une trentaine d'hommes ou une vingtaine d'hommes dans la cavalerie pour un peloton. C'est commandé par un lieutenant ou un sous-officier supérieur, adjudant-chef. Et c'est le premier niveau, je dirais, de mise en œuvre d'une décision tactique sur le terrain. Donc, il va remplir des missions sur un front et sur une profondeur correspondante à une trentaine d'hommes et, dans l'infanterie par exemple, à 4 véhicules blindés de combat. L'échelon au-dessus, c'est celui de l'unité élémentaire, qu'on appelle selon les spécialités une compagnie, un escadron ou une batterie pour l'artillerie. Là, c'est commandé par un capitaine, systématiquement un capitaine, qui commande entre 120 et 170 soldats, et dont l'unité, cette fameuse compagnie ou cet escadron, est elle-même découpée en subdivisions, des sections ou des pelotons. L'échelon supérieur, c'est celui d'un régiment, commandé par un colonel. C'est de l'ordre d'un millier d'hommes, hein, selon les spécialités, ça aussi entre 600 et 1200 hommes. Et à cette échelle, à l'échelle du régiment, eh bien le chef de corps est assisté, c'est le premier niveau où il est assisté d'un poste de commandement. C'est-à-dire qu'il a autour de lui, là où le lieutenant dont je parlais tout à l'heure et où le capitaine sont un peu, non pas seuls, ils ont quand même un adjoint, mais ils sont un peu seuls pour décider et pour conduire leur médotte quasiment seuls. Le chef de corps est le premier échelon qui a autour de lui, non pas un véritable état-major, mais un poste de commandement avec son chef opération, son chef de la logistique, son chef renseignement, son chef des SIC, des systèmes d'information et de communication, qui vont l'appuyer dans sa prise de décision. L'échelle supérieure encore, c'est la première échelle où on voit apparaître des officiers généraux, c'est l'échelle de la brigade. Une brigade comprend entre 4 et 7 ou 8 régiments, selon les configurations tactiques. Là, on est à l'échelle 7-8 000 hommes, commandés par un général de brigade, qui, lui, est accompagné d'un véritable état-major. Un état-major avec plusieurs dizaines d'officiers et de sous-officiers, une compagnie de commandement et de transmission pour lui assurer le raccordement vers tous ses subordonnés. Ce général commandant une brigade, il agit évidemment, hein, on est dans un système d'entonnoir ou de poupée russe, si vous voulez, c'est-à-dire que la portion de terrain sur laquelle agissent ces unités est évidemment va crescendo en fonction de la taille de l'unité. Cette brigade commandée par un général de brigade est elle-même subordonnée à une division. En France, nous avons deux divisions dans les forces terrestres, la première et la troisième division. Et là, nous sommes sur des grandes unités à 30-35 000 hommes, qui comprennent quatre brigades chacune. Et l'ultime échelon tactique, c'est celui du général de corps d'armée. En France, nous avons un corps d'armée, un état-major permanent de corps d'armée, qui est le corps de réaction rapide France, un état-major qui fait partie, hein, des états-majors de corps d'armée qui peuvent être employés sous l'égide de l'OTAN, mais qui n'a pas d'unité permanente sous ses ordres. Hein. Il va agréger une division française, éventuellement une division d'une nation alliée, quelle que soit sa nationalité, et là on va monter à une échelle c'est très variable, 50, 60, 70 000 hommes.
Voilà. Oui, ça dépend aussi des missions et des besoins de projection.
Évidemment. Absolument. Voilà.
Vous évoquiez la question du renseignement. Dans la manière dont la prise de décision se fait, il y a aussi le fait d'évaluer les forces en présence, c'est-à-dire que l'ordre de mission qui est donné, mais se fait aussi par rapport à ce qui est en face, c'est ça qui est en face. Comment se fait cette évaluation dans la mesure du possible, évidemment, puisque on peut pas tout connaître. Enfin, comment va se faire cette évaluation des forces en présence?
Alors, permettez-moi, pour répondre à cette question, d'abord de détailler ce qu'est réellement la médotte, parce que finalement, c'est un outil d'état-major qui amène à une décision tactique, mais c'est bien un processus décisionnel dans lequel on va analyser ce dont vous parliez, c'est-à-dire les forces en présence, qui est quand même le cœur du sujet. Mais on analyse tant bien l'ennemi que la force de l'ami. Donc, c'est un processus qui se détaille en trois phases. Une phase préalable qui répond à ces questions fondamentales. De quoi s'agit-il? Pourquoi et quoi? Et à l'intérieur, vous déclinez, on établit un agenda de ce que va être le processus décisionnel qui peut se mener sur 36 heures plus ou moins en fonction des délais. On respecte à chaque fois la règle du tiers temps. On se prend une tierce de notre temps, du temps avant le début de la mission, pour laisser deux tiers à nos subordonnés qui vont également mener à leur tour une médotte. Et ça va être ainsi décliné par chaque subordonné. Donc on laisse du temps aux subordonnés pour également mener sa médotte. ou en analyse de contexte général, tant environnemental, médias, champs immatériels, l'environnement humain, le terrain, l'ennemi, l'ami. On définit un cadre espace-temps et on définit du coup ce qu'on appelle un problème tactique qui est soit décliné sur l'ennemi, le terrain ou le délai. À la fin de cette phase préalable, on définit un but à atteindre. Le but à atteindre, on parlait tout à l'heure de science et art. Nous sommes bien dans le processus décisionnel, qui est donc une science, puisqu'on essaye de rationaliser ce processus-là et d'amener le chef à prendre une décision rationnelle. En revanche, le but à atteindre est assez intéressant, puisqu'il analyse la finalité et donc, bien évidemment, la lettre de la mission, mais surtout son esprit.
C'est ce qu'on appelle ben, l'état final recherché, ça correspond à ça ou c'est autre chose ?
Alors, on parle d'état final recherché à l'échelle supérieure, qui est l'échelle opérative, dans le cadre d'une méthode qui, elle, est interarmée, qui est inspirée de la méthode otanienne, COPD, nous ne parlons pas ici, mais qui est tout à fait, évidemment, qui, comme je vous parlais tout à l'heure de poupée gigogne, hein, qui s'emboîte, je dirais, avec notre méthode tactique. Dans la méthode, on parle de l'effet majeur.
Hein.
L'effet majeur qui est la quintessence, je dirais, la synthèse qui est le produit de l'entonnoir de toutes les questions que vient de commencer à lister le chef de bataillon Joran. Et la quintessence de tout cela, au bout de l'entonnoir, la synthèse pour le chef, c'est l'effet majeur qui est la retranscription en quelques mots, en une phrase synthétique de l'effet à obtenir par une action qui sera décisive sur un terrain particulier, dans un délai particulier et sur un adversaire, une portion de l'adversaire ciblée, déterminée et qui nous assure non pas la réussite de la mission, mais qui nous assure que si cet effet est obtenu, si cette action est réalisée, son exploitation va nous assurer la victoire.
Du coup, je poursuis, nous avons encore deux phases derrière cette phase préalable. La phase 1 qui est l'analyse et la synthèse de la mission. On répond aux questions fondamentales où, contre qui, avec qui et quand. À l'intérieur de cela, on essaie de d'analyser le point clé du terrain. Quel est le compartiment de terrain qui va me permettre de remplir ma mission et qui est un peu le verrou de la zone, ma zone d'action. Le contre qui, donc c'est les forces en présence qu'on étudie. Vous avez dans un état-major, dans un poste de commandement, vous avez une barrette G2 qui est une barrette renseignement. Donc ils ont une doctrine sur l'ennemi. On a du renseignement qui nous remonte sur les unités, ses capacités. Tant matériel qu'immatériel, puisqu'on définit la qualité du matériel qui est de l'adversaire, mais également sa force morale, sa capacité à relancer l'action, son entraînement. Donc c'est difficile parfois de l'évaluer, donc on parle de l'ennemi au conditionnel. Ensuite, vous analysez les forces amies également, quel est notre centre de gravité, donc quel est notre pion qui va pouvoir remporter la décision et duquel on tire notre puissance. Et enfin, la timeline, donc vous établissez une ligne temporelle, ami-ennemi, les temps peuvent être différents, mais il y a un moment clé, souvent le bascule de rapport de force. Et ce moment est assez intéressant à identifier, puisque à la fin de cette phase 1 d'analyse, on aura une réunion de synthèse qu'on présente au général, et à la fin de cette réunion-là, on présente un effet majeur. L'effet majeur est quelque chose d'assez subtil et de très français, qu'on retrouve, ce n'est pas la mission, ce n'est pas le but à atteindre, c'est ce qui permettra de réaliser, c'est la condition qui détaille un moment sur quel compartiment de terrain, contre quel ennemi et quelle sera l'action décisive qui nous permettra de réaliser notre mission, mais du coup dans une phase, c'est une phase préalable à la réalisation de notre mission. Donc cela détaille la phase 1. Et enfin vous avez la phase 2 qui répond au comment. Une fois que le chef a validé à la réunion de synthèse l'effet majeur, on peut détailler le comment. Donc on conçoit deux modes d'action chez l'ennemi, puisque l'ennemi peut avoir en défensive, vouloir céder du terrain, ou alors se battre pour chaque compartiment de terrain. En offensive, avoir un esprit plutôt agressif ou plutôt prudent. Alors on essaie de déterminer ça sur deux modes d'action de l'ennemi, et on détermine également deux modes d'action amis.
Je dirais que c'est cette phase dont vient de parler le commandant, cette phase de, d'élaboration des modes d'action, c'est la phase, pour nos auditeurs, la plus intuitive que pourrait avoir quelqu'un qui ne connaît pas de l'intérieur les armées. Il pourrait avoir cette intuition que dès que le chef reçoit sa mission, il va, comme nous le disons souvent dans notre verbiage, tracer de grandes flèches rouges et de grandes flèches bleues. C'est peut-être l'image que renvoie la littérature ou les films de guerre où on voit les chefs sur des cartes déplacer des pions. C'est vrai, et c'est d'ailleurs ce que souvent les officiers apprécient beaucoup de faire, c'est-à-dire répondre à la question « comment ?». Mais on ne peut pas répondre à cette question « comment ?» d'une manière efficace, d'une manière logique. On ne peut pas tout de suite passer à l'art sans avoir répondu à l'impératif d'avoir synthétisé dans l'effet majeur, qui est vraiment une spécificité française à laquelle nous tenons beaucoup, et d'avoir une boussole. Voilà, je dirais que plus que une abstraction intellectuelle, l'effet majeur, c'est la boussole qui va guider l'action de tous les subordonnés du chef qui a décidé de cet effet majeur. Et à partir de cet effet majeur, on va pouvoir réaliser une manœuvre dont la typologie peut varier. Elle peut être en force, elle peut être en souplesse, si on est en offensive, elle peut être ferme ou elle peut être mobile, si on est en défensive. Et tout ça va être le côté art. Voilà, là c'est le style du chef qui va s'exprimer. Mais avant, on aura fait toute cette séquence d'analyse, la phase 1, c'est vraiment la phase d'analyse, qui arrive à cette synthèse, dont la quintessence aujourd'hui est l'effet majeur. Et ensuite, on peut laisser s'exprimer, je dirais, l'art tactique, l'art de la guerre. Et on a coutume de dire que même Mozart a fait des gammes avant de composer d'emblée ses plus belles pièces.
Alors justement, au sujet de l'art, on voit bien que lorsqu'il y a une opération qui est menée, il y a toujours des imprévus, il y a des choses qui ne se passent pas comme ça devait se passer, il y a des blessés, il y a le feu de l'ennemi qui peut être différent de ce qu'on avait prévu. Comment, dans ce cadre-là, on va allier cette méthode qui est structurée, qui est très bien définie, et l'adaptation aux circonstances, la liberté d'évoquer du chef de section, du capitaine, du lieutenant, pour affronter l'adversaire tout en restant dans le cadre défini par la méthode.
Alors, je vous disais en préambule que c'est une méthode de l'armée de terre, donc c'est évidemment une méthode militaire dont l'essence même est de répondre à un problème, à un enjeu, sous pression et face à une volonté adverse. Et à partir du moment où on établit une réponse à une problématique sous pression et face à une volonté adverse, on sait qu'il y aura des cas non conformes. Et je dirais que le cas non conforme par essence, ce serait que ça se passe sans problème. Ça voudrait dire qu'on n'est pas dans un affrontement. Donc la méthode, comme toute méthode tactique, y compris chez nos alliés, c'est pas un carcan, je disais, c'est une béquille. C'est une béquille sur laquelle on peut se reposer pour assurer le minimum vital de cohérence à notre manœuvre face à un cas non conforme. On établit des ordres. La méthode ne sert qu'à établir un ordre, qui est donc diffusé et exécutoire. Mais on établit aussi, dans la phase d'élaboration des modes d'action, une série de situations, de cas non conformes, qui va nous permettre d'établir un plan de manœuvre.
Du coup, ce plan de manœuvre est établi durant la phase 2. Donc la phase 2, lorsque vous établissez deux modes d'action ennemis, deux modes d'action amis, on compare d'abord nos modes d'action amis qui présentent des avantages et des inconvénients. On a également défini des critères à la fin de la phase 1. Ces critères, souvent au nombre de 3, permettent de discriminer les deux modes d'action et d'orienter un peu la manœuvre. Ça peut être la surprise, ça peut être la sûreté, ça peut être la soutenabilité d'une manœuvre, ou alors au contraire la fulgurance pour pouvoir atteindre un point rapidement. C'est une manière qu'a le chef de nous orienter vers un mode d'action. Donc cette phase de comparaison s'accompagne également de toutes les fonctions opérationnelles, puisque dans une manœuvre, vous avez les pions de mêlée qui manœuvrent en première ligne, mais vous avez également tous les appuis, les éléments du génie qui vont permettre de brécher, de franchir des coupures humides. Vous avez des éléments de l'artillerie qui vont vous soutenir, tant l'artillerie sol-sol que l'artillerie que l'aviation, ou alors que, enfin hélicoptère ou avion. On établit également les champs immatériels, donc une barrette G39 qui va penser les effets, quel va être l'effet tant sur la population qu'il faudra prendre en compte que la volonté de l'ennemi qu'on veut atteindre. Donc chacun contribue à construire cette manœuvre et ensuite on compare nos deux manœuvres. À la fin, lorsqu'on a établi deux modes d'action amis, deux modes d'action ennemis, on effectue une confrontation sur un tableau. Cela peut être. Alors, il y a plusieurs manières de confronter. On peut établir cela sur un wargame, donc confronter un mode d'action ami contre un mode d'action ennemi, et du coup, vous jouez quatre phases. On peut le faire également sur un simulateur, ou on peut le faire sur un tableau, avec chaque groupe qui identifie des risques et des opportunités.
Alors, tout va dépendre, bien évidemment, du temps dont on bénéficie pour réaliser hein, cette confrontation qui est un moment essentiel de la Médotte. Et c'est un moment qui va nous permettre d'identifier les zones rouges ou les zones grises de notre manœuvre. Les zones où il va y avoir plus d'incertitudes qu'à d'autres phases ou à d'autres séquences de cette manœuvre. Et là, on va lister des canons conformes. Ces canons conformes, ils peuvent concerner l'ami, l'ennemi, le terrain, l'environnement, la population. Le cas non conforme, je dirais le plus classique, qui pourra parler à n'importe quel auditeur sur le terrain et sur l'ennemi, c'est que sur une coupure humide de tel type, on avait identifié qu'on avait 4 points de franchissement, 4 ponts correspondant à la classe de nos véhicules, et une heure avant notre arrivée, il y en a plus que 3 ou il y en a plus du tout. Voilà, donc ça c'est un cas non conforme, voilà, qu'il faut avoir anticipé. Donc le raisonnement du chef va être très bien. Donc face à ce canon conforme là, je vais peut-être devoir changer l'articulation et l'échelonnement. Alors l'articulation, c'est la manière dont on, au sens propre, dont on articule notre Lego tactique, où je mets mes pions d'artillerie, mes pions de génie, mes pions de renseignement par rapport à l'infanterie et à la cavalerie, et l'échelonnement, c'est-à-dire que peut-être que le bataillon dans la brigade qui a les éléments du génie avec des ponts flottants motorisés, avec des éléments de franchissement, eh bien, face à ce canon conforme-là, s'il va nous faire perdre tant de délais par rapport à notre mission, il ne faudra pas le mettre en deuxième échelon, mais plutôt en premier. Voilà. Au risque de le perdre pendant la première partie, puisqu'il sera en premier échelon. Donc, on pondère tous ces canons conformes, on les priorise. Le rôle du chef d'état-major, souvent, c'est de prioriser. Hein, alors, tel canon conforme, pour moi, il a une importance critique, donc on l'étudiera en priorité, le second ce sera celui-là, le troisième, etc., etc. Et chacun de ces canons conformes va donner lieu à ce qu'on appelle un bébé fragmentured, c'est un ordre en cours d'action. C'est-à-dire qu'on va commencer à élaborer une solution, on ne va pas rédiger l'ordre complet, mais au moment où ce canon conforme ou un canon conforme similaire va survenir pendant la conduite de la manœuvre, une fois qu'on aura diffusé l'ordre et qu'il sera exécuté, eh bien le chef va dire, mon général, mon colonel, là, on s'approche de tel canon conforme, je vous propose de sortir tel fragot qu'on avait en soute et de l'établir, de le terminer. Et là, on va gagner un temps précieux pour conserver le tempo de notre manœuvre et éventuellement contrecarrer le tempo, enfin pas éventuellement, et on va chercher à contrecarrer le tempo de l'ennemi pour conserver l'initiative.
Alors, comment est-ce qu'on enseigne cette méthode au sein de l'armée de terre? Je suppose qu'on doit l'apprendre dès Saint-Cyr, et puis après, évidemment, à l'école de guerre terre, vous revenez dessus pour approfondir aussi les éléments qui, après, seront à votre responsabilité dans les années qui y arrivent.
Oui, tout à fait. Alors, pour avoir été élève à Saint-Cyr et ensuite instructeur, on enseigne cette méthode dès Saint-Cyr. Donc, cette méthode de raisonnement est déclinée et enseignée depuis notre plus jeune âge. Et ensuite, avec chaque niveau, les fonctions opérationnelles, bien évidemment, sont pas les mêmes. Comme disait le colonel, nous sommes seuls au début à réaliser cette méthode. Et ensuite, au niveau régimentaire, on a un état-major, enfin un poste de commandement qui permet de raisonner cette méthode et donc de séquencer et de travailler chacun de son côté, un ennemi, une manœuvre, le terrain, la logistique, etc. Donc à Saint-Cyr, on apprend la méthode de niveau section. Ensuite, on a un cours des commandes d'unité Donc, durant lorsque nous passons capitaine et que nous sommes officier adjoint en compagnie, donc compagnie ou escadron, donc 100, 120, 170 personnes, nous partons en formation durant 4 mois pour être de nouveau, apprendre cette médote et apprendre les capacités que peuvent nous offrir les autres armes, puisque pour ma part, par exemple, j'ai servi en régiment d'infanterie, mais je ne connais pas toutes les capacités de l'artillerie, du génie. Donc, cela nous est enseigné et surtout, on parle par effet. Donc le dialogue, il y a un véritable échange avec ces unités-là, puisque nous planifions une manœuvre de première ligne, mais derrière, tout contribuera à renforcer notre manœuvre, et donc nous parlons en effet à ce moment-là. Ensuite, nous apprenons le niveau bataillon-brigade à la qualification interarme de niveau 1 à Saumur. Donc ça, c'est lorsque nous sortons de notre compagnie, que nous rendons notre compagnie. Et ensuite, nous apprenons le niveau division à l'école de guerre terre. Enfin, on fait un effort sur le niveau division, avec tout ce que cela implique, puisque la division va un peu laisser la main aux brigades sur le combat en première ligne et va penser l'arrière de l'ennemi, donc ce qu'on appelle le deep. On travaille en profondeur l'ennemi de manière à le façonner et l'amener à porter des brigades. Donc c'est vraiment un travail collaboratif, si je puis dire, et de la division, qui va aussi penser l'arrière, donc le rire, ce que nous on appelle le rire, mais toute la logistique et comment pouvoir régénérer les éléments au contact, donc les brigades.
La grande force de la continuité de ce cursus de formation que vient de présenter Joran, c'est qu'il y a vraiment un langage commun depuis le jeune chef de section jusqu'au commandant du corps d'armée. Il y a une matrice élémentaire de la médote. Quel que soit le niveau considéré, on se posera toujours les mêmes questions, avec, je le répète, un temps, évidemment, et une portée, un espace différent, mais on apprend la même médote. En fait, il n'y a pas vraiment une médote du chef de section, une médote du commandité, une médote du chef de corps. C'est la même, mais la portée des réponses et de l'espace et du temps qu'il va étudier est plus ou moins significative. Mais c'est la même. Et la grande force des armées, hein, parce que ça, c'est pas le cas que de l'armée de terre, c'est que tout général a été lieutenant. Donc tout général a réalisé, allez, si on parle de nos généraux actuels, la médote à l'époque s'appelait la MRT, méthode de raisonnement tactique. Bon, mais c'était exactement le même principe, avec des variantes. Hein. On évolue, on s'adapte, notamment au multimilieu, au multichamp qui est venu s'agréger sur cette médote actuelle. Mais globalement, il s'est posé les mêmes questions comme lieutenant, les pieds dans la boue, ou dans son char, ou derrière sa batterie, sa section de tir, etc. Il s'est posé ensuite ces questions-là à une échelle supérieure, de commandant d'unité, etc., etc. Et la grande force de ce système, c'est cet échelonnement de postes, cet échelonnement d'expérience qui agrège petit à petit une véritable expertise tactique et qui fait du chef militaire de haut niveau quelqu'un qui connaît les contraintes de l'avant, parce qu'il les a vécues. Il les a vécues personnellement, il les a vécues dans sa chair, dans la fatigue, dans les doutes de ses subordonnés, et il ne va pas venir prendre une décision sans en connaître les conséquences.
On voit d'ailleurs, c'est un peu le fil rouge des différentes émissions qu'on a pu réaliser jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il y a une formation continue et que vous êtes sans arrêt en train d'apprendre de nouvelles méthodes, enfin d'approfondir les méthodes, enfin il y a sans arrêt des qualifications aussi à obtenir, donc sur une carrière de quelques décennies, la formation est vraiment permanente.
La formation est permanente et c'est ce qui assure, enfin c'est un outil pour assurer que le style de commandement que nous recherchons dans l'armée de terre, qui est le commandement par l'intention, eh bien soit communément partagé, quel que soit le niveau hiérarchique. Donc on a une formation continue qui représente pas loin de 15%, 10 à 15% de toute notre carrière va être consacrée à de la formation tactique, technique, organique, hein, ce qu'on appelle organique, donc toutes les fonctions support, la RH, les finances, l'administration, etc. Mais pour assurer ce commandement par l'intention qui est vraiment la carte d'identité de l'armée de terre en termes de style de commandement, eh bien il faut que à chaque étape, quand on monte d'un cran dans la hiérarchie, eh bien on étoffe cette méthode, qu'on la confronte en fait finalement, hein, qu'on la critique, parce qu'on peut la critiquer pour la faire évoluer, pour mieux se l'approprier, de manière à ce que quand on exprime une intention, donc dont la quintessence, je le répète, est l'effet majeur, eh bien on accorde de la subsidiarité, on accorde de la confiance en fait aux subordonnés. Et l'essence même de cette formation continue et l'essence même de notre MEDOT, c'est ce commandement par l'intention. En fait, c'est tout le style français qui est à la fois centralisateur et décentralisateur. Eh bien, dans l'armée de terre, cette dichotomie centralisation-décentralisation, elle passe par le commandement par l'intention. Et la MEDOT, elle nous assure une centralisation dans la conception, une vraie centralisation, parce qu'on contrôle la compréhension par le subordonné de... Il y a tout un processus de contrôle avec... ce sont des termes anglo-saxons, un mission brief, donc chef du niveau N, je vais expliquer au niveau N-1 ma mission, et le subordonné va revenir quelques jours après, faire un back brief, et me dire, voilà chef, voilà comment j'ai compris, mon général, mon colonel, votre mission, votre effet majeur, et voilà comment je compte le réaliser. Et ça, c'est la centralisation dans la conception, mais derrière, s'il a bien compris, on lui accorde une véritable décentralisation dans l'exécution, une grande subsidiarité, une liberté d'action dans une boîte dans laquelle il a toute sa liberté d'action, et ça c'est vraiment l'essence même du commandement par l'intention.
Et c'est ce qui fait que cette méthode est assez verticale puisqu'elle reste militaire et on demande au chef de décider et les subordonnés réalisent et présentent au chef la manière dont ils vont réaliser leur mission, tout en étant horizontal puisque finalement, chacun va travailler par groupe et c'est le travail collaboratif de tous ces groupes qui va permettre de synthétiser, de proposer une manœuvre au chef, mais il y a bien un dialogue de commandement et chacun peut démontrer tant quel sera l'ennemi, quel sera le terrain clé. Et dans ce dialogue-là, il y avait un véritable échange et une véritable richesse. Chaque officier, du coup, dans un centre d'opération, tant parce qu'il a été formé à la MEDOT depuis son plus jeune âge, parce qu'il a eu une spécialité particulière, une expérience opérationnelle également, il y a une richesse humaine, il y a un véritable échange dans un centre d'opération pour amener une décision collective et sans que ce soit le chef qui décide seul.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter cette MEDOT. Donc on a mis un peu les mains dans le cambouis pour comprendre le fonctionnement intérieur de l'armée de terre et cet élément essentiel de la prise de décision, de la façon ensuite dont fonctionne la structure de commandement. Merci pour votre fidélité. Donc, vous pouvez également retrouver sur le site de Conflit les autres émissions réalisées en partenariat avec l'école de guerre Terre, notamment une consacrée à la présentation de cette école, et puis une autre qui est un échange avec des officiers étrangers. Tout ça est à retrouver sur le site internet de Conflit, site de Conflit où vous pouvez également retrouver nos anciens numéros, revueconflit.com, numéro en format papier et en format numérique. Vous pouvez ainsi les acquérir, vous abonner, offrir également des abonnements. Vous le savez, Conflit ne vit que par ses lecteurs, donc en vous abonnant, vous permettez à la revue de continuer à se développer. Merci pour votre fidélité, à très bientôt.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.